RFI.
Alors on dit quoi?
Alors on dit quoi? Bienvenue chers auditeurs et auditrices. L'Université du Rwanda a entamé depuis quelques mois un processus de suppression des filières à faible employabilité. C'est une réforme qui vise principalement les filières non scientifiques, à savoir les arts et les sciences sociales. L'Union africaine estime la pénurie en ressources humaines en Afrique à plus de 8 millions de médecins et de spécialistes, plus d'un million de chercheurs, plus de 4 millions d'ingénieurs et près de 70 000 agronomes. Pourtant, le taux de chômage ne cesse d'accroître. Les universités du continent doivent-elles suivre l'exemple rwandais? Quelle filière devrait être supprimée ou révisée selon vous? Les formations sont-elles adaptées aux besoins du marché du travail sur le plan local? On vous attend sur le numéro WhatsApp de l'émission 00 33 647 740 742. Nous avons déjà le message d'un auditeur depuis Cotonou. Derek nous écrit ce message. Il ne s'agit pas de supprimer des filières, il faut arriver à contrôler le flux. On a besoin de toutes les spécialités et pour contrôler le flux, il faut une stratégie orientée vers les formations aux métiers dès le primaire et le secondaire.
Alors on dit quoi? Penaï Traoré.
Nous accueillons nos invités du jour, Cheikh Oumar Koulibaly, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le responsable du pôle informatique et technologie au sein de l'association des diplômés et étudiants maliens en France, l'ADEME, bienvenue. Avec nous au téléphone depuis le Niger, Mahamadou Hachimou, secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Niamey. Bienvenue à vous et bonjour.
Merci, bonjour madame.
Alors, partagez-vous l'avis de cet étudiant dont je viens de lire le message, Mahamadou Hachimou, qui pense qu'il ne faut pas supprimer, il faut plutôt contrôler les flux vers les différentes filières.
Écoutez, merci d'abord pour l'invitation et l'occasion que vous m'accordez. Et moi, je pense que je partage le même point de vue que cet étudiant-là qui vous a écrit. Et je pense qu'il ne suffit pas de supprimer les filières, mais plutôt de réorienter le système éducatif, parce que, à mon sens, toutes les filières sont importantes. Il n'y a pas une filière qui n'est pas importante, que ce soit une filière en sciences sociales, que ce soit une filière aussi en sciences exactes, c'est-à-dire ceux qui étudient la science dure, les mathématiques, la physique, la chimie et autres. De même que les sciences sociales. Moi, je pense qu'il faut juste contextualiser du moment où le monde est en train de connaître une forte mutation, les choses évoluent, et il ne suffit pas d'abandonner totalement les filières aussi de sciences sociales parce que...
On aura le temps de développer tout ça tout à l'heure. Cheikh Oumar Koulibaly, quel est votre avis sur la question?
Merci de l'invitation. Mon avis justement sur la question, je suis tenté d'être d'accord avec ce que a dit l'étudiant. Effectivement, il faut adapter les flux, mais par rapport, il faut l'adapter surtout à nos réalités et donc l'adapter pousse aussi à mettre à disposition une offre de formation assez large. Donc oui. n'est pas fermé le robinet au niveau du choix. Donc donner la possibilité aux étudiants qui aiment ces domaines-là de pouvoir s'orienter vers, mais il faut que ça soit en adéquation avec les besoins réels du pays en question ou du continent. Donc si c'est le cas, là moi je dirais oui, effectivement il faut l'adapter, mais la suppression ne me choquerait pas dans le cas où le besoin n'est pas là ni à court terme, ni à moyen terme, ni à long terme. Le pays ne se projette pas, forcément la suppression peut être une solution parce que ces formations-là, il faut quand même les maintenir et il faut qu'il y ait des enseignants qui puissent se former.
Bien sûr. Et avant de poursuivre avec vous, nous écouterons cet auditeur du Sénégal. Bonjour Boubacar.
Oui, bonjour.
Et bienvenue, vous avez entendu l'introduction de nos deux invités. Vous avez étudié à l'université de Thiès au Sénégal. Au départ, vous vouliez étudier les langues appliquées, section portugais, mais finalement, vous avez été orienté dans une filière appelée management du tourisme. Pourquoi?
Oui, en fait, moi j'ai je voudrais en fait d'abord en fait vous remercier pour cette intervention et saluer aussi en fait vos invités. Donc, en fait, moi, j'ai une histoire un peu particulière parce qu'en fait, j'optais pour apprendre les langues étrangères. Une fois venu à l'université, il n'y avait plus la section portugaise parce qu'au lycée, je faisais portugais. Donc, par la suite, on m'a permuté sur une formation appelée Management du tourisme. Donc, parce qu'en fait, il n'existait pas portugais. Donc, finalement, n'ayant pas de choix, et mes parents n'ayant pas les moyens de me payer une formation au niveau des écoles privées, donc oui. J'ai accepté et j'ai continué jusqu'à avoir mon master en management du tourisme.
Et donc, ce n'était pas votre choix? Vous avez été orienté là-bas sans que vous décidiez quoi que ce soit?
Oui, parce qu'en fait, c'était seulement en fait la possibilité qui me restait pour pouvoir en fait continuer mes études à l'université.
D'accord.
Donc, j'ai accepté cette proposition. Bon, à contre-cœur en fait. Mm-hmm. Je pouvais pas avoir un autre choix en fait.
Et finalement, ça a été comment pour vous sur le plan de déboucher?
Voilà, en fait, c'est là où je voudrais venir en fait, parce qu'en fait. Côté débouché pour le management du tourisme au Sénégal, c'est un vrai casse-tête. Après, à la fin de la formation, tu ne sais réellement pas en fait qu'est-ce que tu dois faire en fait, quels sont les secteurs qui puissent directement t'accueillir parce que quand on parle de management du tourisme, on sous-entend que c'est l'hôtellerie, c'est les sites touristiques et toutes ces choses-là.
Oui.
Alors ça devrait dépasser largement ce cadre-là. Mais avec un problème de clic qu'il a dans les universités sénégalaises, surtout à l'université de Thiès avec cette formation-là, tu ne peux faire que réception d'hôtel ou manager un hôtel.
Ouais.
Alors que on ne te lance pas comme ça dans le bain, ce sont les multinationales qui ont des hôtels au Sénégal.
Mais vous avez dû changer de formation plus tard.
Oui, en fait, j'ai eu la chance par rapport à mes promotionnaires qui beaucoup d'entre eux galèrent pour trouver un emploi depuis la fin de notre formation qui a de cela 7 ans. Moi, en fait, j'ai eu la chance d'avoir une bourse à l'université de Fribourg, en Suisse.
Oui.
Et puis changer complètement de formation en allant dans tout ce qui est ingénierie financière.
D'accord. Et aujourd'hui, vous travaillez dans ce domaine-là?
Oui, actuellement, je suis à l'ADIE, je suis à l'Agence de l'informatique du Sénégal comme chef de projet dans les espaces Sénégal Service.
Oui.
Voilà, je travaille sur un domaine que je maîtrise bien, que j'aime parfaitement bien.
Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'ils sont devenus, vos promotionnaires qui ont étudié le management du tourisme avec vous? Ils ont ils ont été embauchés après ou pas?
Non, en fait, je pense pas qu'ils soient embauchés. En fait, beaucoup d'entre eux sont des réceptionnistes dans les hôtels. Il y en a beaucoup qui ont changé de formation. Et ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir payer une formation ou d'aller étudier à l'étranger sont actuellement en chômage ou bien font des petits boulots, en fait.
Ouais.
Donc, je pense que ça, c'est un problème réel, en fait. Et je plaide, en fait, pour que certaines filières soient supprimées, surtout au Sénégal. Parce que pour moi, quand on forme une personne, on doit l'adapter au marché de l'emploi actuel dans le pays.
Merci beaucoup, Boubacar Sylla, pour ce témoignage. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Nous avons Nerval, qui est étudiant à Brazzaville, qui souhaite aussi s'exprimer sur le sujet. Bonjour, Nerval.
Bonjour, madame.
Vous pensez que l'enseignement universitaire devrait servir à spécialiser les étudiants et les futurs chercheurs? Soyez plus explicite, on vous écoute.
Ok, comme vous l'avez dit, je suis étudiant à l'université Marine Gwabi de Brazzaville et nous avons une toute autre réalité dans cette université qui consiste, la réalité selon laquelle, qui consiste à créer le tronc commun. Le tronc commun, c'est une sorte de mélange des étudiants qui viennent après, vont prendre des parcours différents, mais ils sont obligés de passer tous, par exemple, la première année la deuxième année ensemble pour enfin prendre leur spécialité en troisième ou bien en master.
Ouais.
Et voilà.
Vous pensez que c'est une perte de temps?
Vraiment, c'est une perte de temps pour les étudiants qui, normalement, dès la première année, devraient se spécialiser dans leur domaine de prédilection, sinon dans leur domaine choisi après l'obtention de leur baccalauréat. Pourquoi je le dis que c'est une perte de temps? Parce que moi, par exemple, je suis à l'université, j'ai été en première année de lettres. Normalement, je devais faire civilisation africaine, mais j'étais obligé en première année de passer d'abord en une sorte de LLS, c'est-à-dire littérature, langue et sciences du langage. On nous a tous mélangés. Pour moi, je trouvais que c'était une perte de temps.
Oui.
Ensuite, en deuxième année, vous venez, Vous spécialisez dans mon domaine, c'était littérature et civilisation africaine. Et voilà, quand vous vous spécialisez comme ça, il y a des matières à cela qui s'ajoutent qui n'ont parfois même pas de rapport avec ce que vous faites.
Et oui. Vous, votre filière, quels sont les débouchés? Qu'est-ce que vous allez faire après ces études?
D'accord. Mon plan après ces études, c'est d'être un chercheur sur les cultures africaines, les réalités africaines, puisque j'étudie la littérature et la civilisation africaine. Donc, comment étudier les langues, comment ces langues ont été, quelles sont les richesses que peuvent générer ces langues, quelles sont les richesses que peuvent générer nos réalités traditionnelles dans ces domaines-là.
Donc, vous restez donc dans le système universitaire, voilà, en tant que chercheur, c'est bien ça,
hein? Oui, en tant que chercheur.
Merci beaucoup, Nerval, pour ce témoignage. Merci à vous et très bonne journée à Brazzaville.
Merci beaucoup et pareillement à vous.
Mahamadou Hachimou, vous avez entendu ces deux étudiants qui ont des cas différents. Que pensez-vous de ce qu'ils ont dit?
Ben, je pense que les deux étudiants, l'un qui est sénégalais et l'autre au Congo, Brazzaville exactement, je pense qu'ils ont tous parlé du problème de l'orientation.
Oui.
En réalité, le premier avait dit qu'il a commencé à étudier une filière en management du tourisme au Sénégal. Et que par après, il était obligé de changer de choix. Et ça, c'est parfaitement la réalité de nos universités africaines. Mmh. Et peut-être même ici au Niger, c'est des cas que nous rencontrons beaucoup. Et vous vous retrouvez avec plusieurs étudiants qui font le choix ou à qui on impose le choix. Et que par après, un an, deux ans après, ils se rendent compte qu'ils se sont trompés de filière. Donc ça, le problème, je crois que ça se situe au niveau de l'orientation post-secondaire. Et en réalité, vous savez, l'orientation post-secondaire constitue dans nos pays africains et dans nos universités une épineuse question. Donc l'entrée à l'université est l'une des étapes les plus cruciales pour les jeunes.
Oui.
Et qui, en réalité, ont achevé leur parcours secondaire et qu'il s'agit ici de faire un choix en fonction de son goût. Et de poser les jalons d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle vie et de poser les jalons aussi pour l'avenir.
Parce oui, que bien sûr. Il y a Cheikh Oumar Koulibaly qui va réagir. Alors, on voit qu'il y a certains étudiants qui sont orientés, mais qui n'ont pas toutes les informations par rapport à la filière qu'ils vont étudier. Ils n'ont pas non plus les informations par rapport aux débouchés avant de s'engager.
Exactement. Au fait, les deux auditeurs là montrent un peu vraiment l'importance du sujet et aussi les paradoxes qu'on peut avoir. Parce que dans un cas, l'auditeur du Sénégal, lui, il savait ce qu'il voulait faire. Il avait déjà défini.
Oui.
Maintenant, il n'avait pas l'offre. Donc, vous voyez, donc par défaut, il a été orienté. Et maintenant, donc l'autre cas, lui, il trouve que il y a presque trop d'offres parce que il y a un tronc commun qui fait que voilà, il y a un tronc commun qui fait que pour lui, il sachant déjà ce qu'il veut faire, le tronc commun c'est une perte de temps. Donc, c'est là où on montre un peu la difficulté de ce sujet. Et pour moi, le tronc commun, je suis pas forcément contre, au fait. C'est très bien parce que à 17, 16 ans, 16, 17 ans, c'est difficile des fois d'avoir une conviction, de savoir ce qu'on veut faire. Tout de suite. Surtout si on n'a pas de figure, en gros, de personnes qui ont déjà fait des longues études ou des études universitaires dans la famille ou dans les entourages. Donc, le fait d'avoir un tronc commun, pour moi, c'est un bon moyen d'immersion pour les bacheliers. Et comme ça, ils verront une large palette de formations dans lesquelles ils vont trouver peut-être leur vocation.
Alors, on dit quoi?
Et je vous propose qu'on écoute ce reportage de Junior Bekoutou, notre correspondant à N'Djamena. Mais ça sera juste après cette petite pause musicale.
Voilà, tu disparais sans laisser un mot. T'as préféré fuir comme un enfant, partir sans te retourner. Je t'ai prêté mon cœur et tu lui as donné ton dos. Toi tu m'as fait gaspiller mon temps, tu ne m'as pas laissé parler. Aïe. Et maintenant, tu reviens, et comme avant, tu espères retrouver celui qui t'a aimé, celui avec qui t'as joué. Et maintenant c'est toi qui veux parler, et toutes tes meilleures phrases tu veux les coller. Ne gaspille pas mon temps, yeah, yeah. Oh le temps, le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. Oh oh, le vent a bien tourné. Ne gaspille pas mon temps. Une autre a su me soigner. Ne me fais pas croire que je n'ai pas fait ce qu'il faut. Moi je t'ai fait passer avant tout. J'en ai perdu la raison. Sans aucun remords, toi t'as tout jeté à l'eau. J'étais devenu accro à ton goût. Le goût de ton poison. Hey, yeah. Et maintenant, yeah, moi ça va. Avec toi, j'avais comme l'impression de devoir supplier pour quelque chose que tu me dois, non. Et maintenant, toi tu veux enfin m'entendre. On s'est arrêté, tu veux reprendre. Ne gaspille pas mon temps. Le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. Oh oh, le vent a bien tourné. Ne gaspille pas mon temps. Une autre a su me soigner.
Retour en plateau. Alors on dit quoi? Aujourd'hui nous parlons des formations à faible employabilité avec mes invités Cheikh Oumar Koulibaly et Mahamadou Hashimo et bien sûr avec vous les auditeurs. Tout de suite va suivre le reportage de Junior Bikutu.
Au Tchad, ils sont nombreux les jeunes étudiants ou les élèves qui choisissent des filières d'études sans au préalable être renseignés sur les débouchés et les opportunités d'emploi et ils finissent par se retrouver au chômage à la fin de leurs études, les obligeant ainsi, malgré leur diplôme universitaire, de se tourner vers d'autres activités qui n'ont rien à voir avec leur domaine d'études pour gagner leur vie. C'est justement le cas d'Ndigadna Thomas, titulaire d'une licence en administration et planification scolaire depuis 2015. Au lieu d'exercer dans ce domaine, le jeune homme d'une trentaine d'années travaille comme pompiste dans une station-service de N'Djamena et il vend aussi des cigarettes dans son quartier.
Moi, j'ai fait la filière en administration et planification scolaire, donc je dois être quand même dans une administration publique quelconque. Mais malheureusement, ce que je suis en train de faire actuellement au niveau de Total comme un pompiste, moi, je n'ai pas fait mes études dans le domaine pétrolier. Normalement, c'est ceux qui ont fini dans des instituts universitaires de pétrole qui vont être là comme des saisiards d'agents. Mais comme par défaut, je ne peux pas croiser le bras, je dois aussi prendre ma charge, je dois aussi trouver de quoi vivre et joindre les deux bouts. C'est comme ça que j'ai laissé la filière là de côté et en train de travailler dans le domaine pétrolier.
C'est une triste réalité qui ne concerne pas que Thomas. Des milliers d'autres jeunes font face à cette même galère.
Bonjour, mon nom c'est Aimé Aïssa Dibona, technicien supérieur en analyse biomédicale de formation.
Vous avez fini vos études supérieures depuis quelle année?
Depuis 2011, à l'Institut universitaire de sciences techniques d'Abéché.
Et donc depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas pu trouver un coin pour vous insérer professionnellement avec votre diplôme?
Mon diplôme a servi juste d'encadrer quelques étudiants au départ. Mais à la fin, je me suis retrouvé comme chômeur. Je suis obligé d'utiliser ma tête pour travailler dans d'autres domaines, mais pas au laboratoire.
Donc avec votre diplôme, vous devez être au laboratoire?
Normalement, parce que vu déjà le besoin qui s'est fait sentir dans nos hôpitaux, mais ce qui fait mal est que l'État ne nous recrute pas. Donc nous sommes obligés pour joindre le debout, on est obligé d'aller se débrouiller ailleurs. Je ne suis pas au labo. Je suis dans une société de vente d'articles où je gère le service commercial. Je suis assistant de la gestion des stocks. Donc ça n'a rien à voir avec ma formation parce que normalement je devrais être là en train de poser diagnostic de certitude afin d'aider les décideurs, les consultants, les médecins à prendre des bonnes décisions médicales. Malheureusement, tout ce que j'ai appris, je suis obligé de mettre à côté parce que j'ai envie de survivre. Donc je suis obligé de me débrouiller avec ce que j'ai appris dans l'OTA pour joindre les deux bouts.
Découragé, Ndigadna Thomas regrette d'avoir étudié l'administration et planification scolaire et souhaite que certaines facultés, à l'image de la sienne, soient fermées car, selon ses explications, depuis sa création, ses diplômés sont abandonnés à leur triste sort.
L'État n'arrive pas à intégrer, mais maintenant la faculté a formé presque 10 000 diplômés. Je ne sais pas qu'est-ce que l'État va faire avec tout ce monde. Vu ma situation sociale et la situation de mes parents, moi je regrette, puisque Moi, mon objectif, c'est de venir à la faculté et sortir. Une fois sortir là, je peux trouver de quoi vivre. Je demande à l'État de revoir les choses, ou soit de fermer la faculté des sciences de l'éducation pour une durée de 5 ans, selon ma proposition, et essayer de trouver la solution à ceux qui ont déjà détenu les diplômes au sein de cette faculté. Sinon, la crise sociale va débuter au sein de la faculté des sciences de l'éducation.
Fermer certaines facultés serait une grosse erreur de l'avis du responsable du Centre d'orientation et de recherche en éducation, Dimrasem Thales.
Moi, je pense que en réalité, il n'est pas question de supprimer les filières, parce que si on en a les universités, il y a des filières classiques et il y a des filières professionnelles. Les filières classiques, ce sont des filières qui préparent à des longues études. C'est-à-dire que le bachelier s'inscrit dans ces filières. Ce n'est pas pour arrêter au niveau de la licence, mais c'est de continuer jusqu'à master, voire le doctorat. Et c'est une formation qui s'inscrit dans le domaine de la recherche. Maintenant, les filières professionnelles sont des filières qui se situent par rapport au domaine du marché de l'emploi. Et donc, à l'intérieur des facultés, vous allez trouver des filières classiques, en même temps que vous allez trouver des filières professionnelles. L'école, l'université ne font pas seulement au domaine de recherche de l'emploi, mais l'université ouvre aussi l'esprit.
Voyant la détresse professionnelle de leurs aînés, les nouveaux bacheliers et nouvelles bachelières, à l'image d'Amina Nadjara, hésitent dans leur choix pour les études supérieures.
J'étais dans l'embarras des choix, mais petit à petit, j'ai décidé de faire la nutrition. Je voulais faire la communication ou encore droit privé. Mais j'ai décidé autrement. J'ai décidé de faire la nutrition puisque les ONG lancent des projets et la nutrition est au début, tout ça. Et le nombre de nutritionnistes aussi est peu au Tchad.
Alors, comment s'en sortir ? Faut-il se diriger par passion vers une filière ou faut-il choisir en fonction de l'offre du marché de l'emploi? Les conseils de Dimrasem Thales.
Il ne faudrait pas se réaliser dans une formation où à la fin tu es perpétuellement chômeur, tu es dans le sous-emploi, mais il faut également choisir une filière qui cadre avec les besoins du marché de l'emploi. Donc l'essentiel pour le bachelier, c'est d'abord de tenir compte dans un premier temps de son travail, deuxièmement de ses projets, de ses ambitions, de ses rêves, et le troisième niveau, il faudrait voir est-ce que l'orientation cadre avec la réalité. Est-ce qu'il est formé dans un domaine où le marché de l'emploi a donc réellement besoin? Ou encore, est-ce qu'il est formé dans un domaine où il peut lui-même entreprendre?
Selon un recensement fait par la plateforme des diplômés sans emploi en août dernier, plus de 80 000 titulaires de diplômes universitaires ou professionnels n'arrivent pas à trouver un emploi avec leur diplôme.
Le reportage de Junior Bekoutou depuis N'Djamena. Alors, je me tourne vers vous, Cheikh Oumar Koulibaly. Vous avez, ce que vous avez entendu dans ce reportage, il y a un problème de chômage qui se pose. L'État est en train de former des milliers de chômeurs.
Tout à fait. Effectivement, les cas de Thomas, il est très frappant. C'est-à-dire qu'on voit le gap entre les deux domaines de l'administration à un domaine très technique qui est le pétrole. Du coup, forcément, le pragmatisme fait que si on n'a pas l'emploi dans le secteur qu'on a étudié, forcément, on est obligé de s'adapter. Mais moi, ce que j'ai relevé surtout, c'est les propos du conseiller oui. d'orientation, qui parlait aussi, il mettait un peu en avant l'objectif pourquoi on l'étude. Et surtout, pourquoi certaines filières sont proposées? Pourquoi on propose les filières déjà? Oui. Pour moi, il a parlé de l'ouverture d'esprit. Mais moi, la question que je me pose, est-ce que on doit, qu'est-ce qui doit primer? Est-ce que c'est l'ouverture d'esprit qui prime sur l'employabilité de la filière? Oui. Donc ça, c'est à définir. Maintenant, est-ce que au-delà de ces questions-là, qui est plutôt à se poser en amont, mais une fois que au moment du choix des étudiants, il faudrait qu'on puisse aussi les faire sortir ces différents points. Ces études-là, bien sûr qu'en faisant des études, on a tout le temps, c'est toujours, on s'ouvre l'esprit, mais il y a certaines études qui sont plus orientées emploi que d'autres.
Oui,
donc il faudrait qu'on ait ces informations-là au départ.
Mahamadou Achimou, alors vous avez écouté ce reportage, vous pensez que c'est la même situation au Niger, il y a des milliers de chômeurs qui sont formés?
Oui, il y a des milliers de chômeurs qui sont formés, vous savez, dans nos universités, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, au XXIe siècle, il faut que les filières de formation que nous avons dans nos universités puissent être contextualisées. Et parce que aujourd'hui, dans notre université, par exemple, si je prends l'exemple de l'université de Niamey, c'est une université qui génère beaucoup de diplômés, et, ou même au-delà de pratiquement toutes les universités africaines, c'est des universités qui génèrent beaucoup de diplômés qui ne servent qu'à la fin à exhiber leur impressionnant parchemin dans un environnement ou n'importe même les choses les plus banales.
Oui, mais ça ne leur permet pas d'avoir du travail à la fin des études.
Ça ne permet pas d'avoir du boulot. Donc c'est pour cela qu'il faut enseigner plutôt aux étudiants de toutes les universités et une éducation qui permet d'acquérir le savoir-faire. Et donc une éducation qui apprend à inventer, à créer, à innover, à trouver des solutions ou des réponses pratiques.
Oui.
Et adéquate aux besoins et attentes de la société. Donc, une éducation qui apprend à produire ce qu'on consomme. Pas une éducation aujourd'hui, à quoi sert-il pour une multitude de faire de longues études pour finalement attendre de passer éventuellement un concours qui, lui, vous offrira la possibilité d'apprendre un métier.
Oui.
Donc, c'est face à quoi nous sommes dans nos universités. Je pense qu'il y a l'urgence de recycler les offres de formation dans les universités pour que ces offres de formation puissent être à réelles adéquations avec les besoins de la société.
Oui. Et nous avons un étudiant, Moussa Dembélé du Mali, il est étudiant en économie, qui souhaite réagir. Bonjour Moussa.
Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Bienvenue à vous. Alors vous pensez qu'il faudrait plutôt diminuer le nombre d'étudiants dans les filières, comme des filières comme la sociologie, la philosophie ou l'anthropologie, c'est ça?
Oui, je pense que supprimer ces filières n'est pas une bonne idée parce que ces filières aussi ont leur importance dans la vie courante.
Mm-hmm.
Moi je pense qu'il faut réduire le nombre d'étudiants qui vont aller inscrire dans ces filières-là.
Oui.
En contrepartie, l'État doit créer des instituts de formation professionnelle pour orienter les étudiants vers l'entrepreneuriat. C'est mieux que de supprimer aussi ces filières.
Mais tout le monde ne réussit pas hein, dans l'entrepreneuriat. On a un autre étudiant, Boniface, qui lui, il est aussi au Mali. Il est étudiant, il est à Caille. Bonjour, Boniface.
Oui, bonjour, madame.
Vous partagez, hein, si j'ai bien compris, l'avis de votre compatriote Moussa.
Oui, merci d'avoir me donné la parole. Et à mon avis, on ne doit pas supprimer aucune filière à l'université, parce que toute filière a sa place dans la vie de l'homme. Et on doit plutôt créer des emplois conformément à ces filières, parce que, imaginons par exemple, quand on crée tout de suite des emplois, les étudiants sortant de ces filières auront des emplois. Et ensuite, quand on supprime certaines filières, les anciens qui dispensent aussi des cours dans ces facultés, ça va diminuer leur taux de salaire. Soit ils iront même au chômage.
Oui, ils seront obligés peut-être du coup de se retourner vers d'autres filières pour enseigner. Oui, c'est effectivement un autre problème. Mais vous étudiez quoi à Caille?
Et bon, moi j'étudiais la sociologie toujours.
Et vous êtes toujours étudiant, hein? Vous comptez faire quoi après la sociologie?
Et bon, moi je compte être enseignant après mes études. Oui, même actuellement, pendant les vacances, je fais des stages, je donne des cours dans des sociétés privées aussi.
Oui.
Donc, pour moi, en un mot, on ne doit pas supprimer des filières.
Merci beaucoup, Boniface, et merci aussi à Moussa. Hein. Merci à vous pour vos interventions dans l'émission. Cher Oumar Coulibaly, vous êtes malien. Vous avez entendu ces étudiants maliens. Alors, ils pensent qu'il ne faut pas supprimer des filières, qu'il faudrait plutôt soit désengorger le nombre d'étudiants qui vont désengorger, disons, les facultés. C'est une possibilité, c'est possible de faire ça. On a même entendu dans le reportage sur le Tchad, il y a quelqu'un qui a dit qu'il faudrait fermer une faculté pendant 5 ans et reformer avant de voir qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont été formés d'abord avant de rouvrir.
Exactement. Bon, là c'est une solution plutôt curative.
Radicale, oui.
Voilà, c'est-à-dire que le mal, il est déjà là, donc il faut arrêter, en gros, le fait qu'il se propage. Maintenant, pour moi, je suis d'accord avec mes compatriotes, Moussa et Boniface. Effectivement, il faudrait plus, pour moi, d'abord faire une étude de marché comme ça a été fait au Rwanda. Avant de se poser la question de suppression, ils ont déjà regardé le marché de l'emploi.
Oui.
Et ensuite... pouvoir,
ils ont énuméré les besoins.
Exactement, ils ont énuméré les besoins. Parce que les besoins sont là, peu importe la filière, il y a quand même un minimum de besoins qui est là. Oui. Maintenant, une fois que ce travail il est fait en amont, on a regardé le marché. Ensuite, on va adapter les filières en fonction.
Oui.
En fonction du besoin du marché. Oui. Et donc, ce que disait Moussa, justement, c'est de dire, la sociologie, par exemple, on sait que les besoins, on a fait une étude, on a estimé à peu près qu'on va avoir besoin dans l'année d'une vingtaine d'étudiants. Mm-hmm. Donc, il faudrait pas permettre aussi, il faudrait faire en sorte de restreindre l'accès à ces formations sans que ça soit dit, bon, vous pouvez pas. Mais il y a des mécanismes à mettre en place pour limiter le nombre d'entrants dans ces filières-là, pour justement qu'à la sortie, ils puissent s'épanouir. Quoi.
Alors, on dit quoi ?
Et tout de suite, on y va pour le coup de cœur musical de la semaine avec la jeune rappeuse ivoirienne Mosti.
Hello, chers auditeurs, ici Mosti, voilà. Je vous invite aujourd'hui dans l'émission de Allô, on dit quoi ? À découvrir Mosti est là, qui est mon tout dernier titre, voilà. Inspiré de Didier Delors, Faux Chien, un son ivoirien camoussé. Voilà, banger sorti. Donc, écoutez tous sur Allô, on dit quoi de RFI. Mosti.
Je rentre dans l'équipe et je mélange. Contre moi, j'ai réuni ta boîte, ta maman et ton tonton dans ma feignée. Isa Djambolo, qui est dans ce bar qui t'en sera pour toi. Il veut me poser dans le king, je vais me battre un peu comme Arafat. Yorbo. Ah, hey,
hey, Mosti est là. Ah, hey, hey, Mosti est là. Ah, hey, hey, Mosti est là. Mosti est là.
Écoute-moi bien. Esquiver le problème, c'est pas la vie, c'est pour marquer ma génération. Je vais chercher l'argent et puis poser. Après, goûter un peu les rations. Il veut m'éliminer là. Petit à le talent pour téléguider. Hein. Si j'ai la plume à DFT, le talent suspect, demande qui peut m'éliminer. Hein. Oui, c'est moi. Mosti, l'enfant du pays est là, bébé. Oui, y'a quoi? Tu veux tester Mosti? Ok, let's get it. T'auras pas la bouche, bébé. Hein. On fait l'alphabet. Pour ton rap, tu vas monter d'avion. Aïe, t'as décollé.
Ah, hey, hey, Mosti est là. Ah, hey, hey, Mosti est là. Ah, hey, hey, Mosti est là.
Le titre comme Mosti est là, chanté par Mosti. Nous aussi, on est là dans Alors on dit quoi? Et je donne la parole à notre invité du Niger, Mahamadou Hashimou. Alors, comment faudrait-il faire pour adapter les filières et les formations aux besoins des différents pays? Quand je prends le cas du Niger, par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Je pense qu'en guise de perspective, d'abord, il faut que l'État songe à mettre en place une politique d'orientation et qui va vraiment nous permettre également d'avoir un système éducatif performant, un système éducatif d'émission, une éducation qui va permettre à l'élève,
oui,
dès le bas âge, d'avoir en tête ce qu'il a envie de devenir dans la vie.
Mm-hmm.
Mais il est fréquent de trouver aujourd'hui des jeunes étudiants, des jeunes bacheliers, et même des étudiants parfois à un niveau élevé,
oui,
qui à chaque fois quand vous leur posez la question à savoir qu'est-ce qu'elle veut devenir, ils vous répondent toujours par cette phrase aussi perplexe. Je ne sais pas du tout ce que je veux faire dans la vie. Et je crois que cela n'est pas du tout important. On doit avoir un système éducatif qui doit permettre aux jeunes élèves, dès l'école primaire, de savoir ce qu'ils veulent devenir. Oui. Par exemple, ici, vous voyez, généralement dans nos universités, dans nos écoles, tout ce que l'enfant sait, c'est qu'après l'école primaire, il sait qu'il va aller au collège. Après le collège, il va aller au lycée. Après le lycée, il va aller à l'université. Et jusqu'à l'université, en master 1, à la licence, vous retrouvez beaucoup d'étudiants qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent devenir dans la vie.
Alors, on dit quoi?
Et on a un étudiant hein, du Niger qui souhaiterait s'exprimer. Maman Bounia, bonjour.
Oui, bonjour.
Et bienvenue à vous. Vous pensez plutôt qu'il faudrait supprimer hein, certaines filières de l'enseignement universitaire parce qu'à votre avis, les universités africaines copient ce qui se passe en Occident?
Effectivement, il y a des filières qu'on doit supprimer carrément parce qu'à mon avis, on ouvre une filière pour répondre à un besoin en cadre, en personnel. Mais certaines filières de nos universités ne fabriquent que des chômeurs.
Vous pensez à quelle filière, par exemple?
Si je prends la filière de comptabilité, il y a trop d'universités et d'instituts qui ont ces filières. Du coup, on réalise quand des diplômés et que l'entrepreneuriat n'est pas développé, seul l'État peut recruter des personnes qui tirent un master, par exemple, en comptabilité.
Oui.
Et les entreprises privées, vraiment, il n'y a pas assez d'entreprises pour recruter quelqu'un qui a un master en comptabilité. L'État recrute, mais pas de façon régulière.
Mais le pays a quand même besoin de comptables. Mahamadou Hachimou, que pensez-vous de ce que Maman Bounia vient de dire?
Bon, là, c'est la triste réalité de notre pays. Comme il l'a dit, il y a beaucoup d'instituts, surtout privés, qui enseignent, qui donnent des offres de formation en comptabilité, en management, en gestion des entreprises. Mais très malheureusement, une fois sur le terrain, les diplômés se rendent compte que le marché d'emploi est totalement saturé.
Oui.
Bon, pas du tout saturé, mais quand même, il n'y a pas d'accessibilité par rapport à cette offre de formation qu'ils ont fait au niveau du supérieur.
Oui.
Donc là, l'État doit songer. Le besoin est là, en réalité.
Ça veut dire que l'offre ne suit pas la demande. Il y a beaucoup de demandes, il y a très peu d'offres, c'est ça?
On peut pas dire que dans un pays, on n'a pas besoin de comptables ou des spécialistes en management des entreprises. Et je pense que c'est à l'État de voir comment est-ce qu'il faut développer le domaine de l'entrepreneuriat, le domaine des entreprises.
Oui.
Et le domaine où il faut également recruter des jeunes comptables qui vont développer leur expertise dans le monde de l'économie. Et je crois que c'est ce à quoi, même au sein de nos universités, il faut songer. Il n'y a pas, comme je l'ai dit tantôt, une filière qui n'est pas du tout bonne. Et pour un pays, par exemple, quand j'ai écouté un frère qui a appelé, qui disait qu'il est sociologue, et je vois que la sociologie, c'est une branche et des sciences sociales dont on a besoin partout. Dans n'importe quel domaine de la vie, on a besoin d'un sociologue parce qu'il va aussi apporter sa contribution pour faire des études anthropologiques, pour comprendre les modes de pensée, comment les gens pensent des choses.
Le fonctionnement de la société et tout ça.
Exactement, et le fonctionnement de la société et le cadre de vie. Adopter cela aussi, peut-être à une étude, ou à un besoin qui est songé à ce que l'État puisse en tout cas apporter des solutions à tous les problèmes.
Oui.
Donc
Maman,
là, je pense qu'il faut indexer, là où il faut indexer du doigt la responsabilité de l'État.
Maman, vous avez autre chose à ajouter?
Oui, ce que j'ai ajouté, comme disait mon frère du Niger, l'État doit revoir et on doit éviter les copier-coller. Le fait, ce n'est pas parce qu'il y a une filière dans une université française que nous aussi, il nous faut créer cette filière. On doit revoir pour que l'offre corresponde à la demande. Le fait de produire tant de diplômés et qu'il n'y a pas de travail, vraiment, ça nuit au pays.
Merci beaucoup à vous.
Merci.
Alors, on dit quoi?
Il y a Omar Sidibé de la Guinée qui nous appelle. Il voudrait réagir sur le sujet du jour. Bonjour, Omar.
Oui, bonjour à tout le monde et bonjour à toute l'équipe. Alors, on dit quoi?
Alors, vous avez écouté hein, vos prédécesseurs. Racontez-nous, vous avez fini d'étudier?
Depuis en 2007.
Qu'est-ce que vous avez étudié?
Moi, j'ai fait à l'université tourisme.
Et après, quand vous avez fini, est-ce que ça a été facile pour vous d'avoir un emploi?
Bah, pour moi, ça n'a pas du tout été facile pour moi donc d'en trouver un travail. Je suis donc à la fin de mon cycle universitaire.
Oui.
Néanmoins, j'ai quand même bien aimé c'est du forcément cette filière que j'ai eu à faire à l'université. Parfaitement.
Oui.
Parce que même si pour le moment, quand même, la Guinée, quand même, est dotée pas mal à des sites touristiques,
oui.
Admirables, séduisants. Au contraire, malheureusement, notre État, pour le moment, n'aime pas à le mettre. À une bonne exploitation.
Alors, Cheikh Oumar Koulibaly, un dernier mot par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait assez d'offres par rapport à la demande, par rapport à tous les étudiants qui sont formés des universités, qui sont aussi formés dans les écoles supérieures?
Pour moi, effectivement, pour augmenter l'employabilité des formations, il faudrait déjà savoir les besoins, besoins justement qu'ont les entreprises. Et donc, je prends toujours l'exemple du Rwanda, qui est de faire une étude réelle de marché, de savoir quels sont les besoins des entreprises et même de l'État. Hein. Et ensuite, adapter aussi, actualiser les contenus pédagogiques, parce que c'est très important. Des fois, il y a Maman du Niger qui parlait tout à l'heure de la comptabilité. On peut se rendre compte que le contenu pédagogique n'est pas adapté à la réalité des entreprises.
Ça fait des dizaines d'années que le contenu des formations n'est pas révisé, n'est pas revu.
Tout à fait. Et du coup, forcément, étant dans le domaine de l'informatique, on se rend compte que maintenant, on a beaucoup de choses sont dématérialisées, digitalisées. Et donc, on va avoir un étudiant qui va être formé avec, pas forcément, qui n'ait pas été sensibilisé sur ces technologies-là. Mmh. Bien qu'il ait les compétences, il ne serait pas forcément opérationnel, même dans un court terme pour une entreprise. Donc, ils vont dire, il a les compétences théoriques, mais il n'a pas été sensibilisé aux nouvelles technologies, en quelque sorte, qui sont beaucoup utilisées dans différents domaines, que ce soit la comptabilité et même dans le tourisme actuellement.
Vous êtes un membre de l'association des diplômés et étudiants maliens en France. J'imagine que vous recevez des étudiants maliens qui viennent, après quelques années d'études, veulent changer de filière parce qu'ils se rendent compte qu'en tant qu'étrangers, ils ne peuvent pas être employés, en tout cas recrutés dans des entreprises ici, c'est difficile, et ils décident de changer de filière. Vous recevez ces étudiants-là, qu'est-ce que vous leur dites?
Oui, effectivement, on en reçoit pas mal. Et du coup, au niveau de l'association, on a essayé justement de pallier à ça, parce que nous, quand on est arrivé, on a été confronté à ces problématiques-là. Hein. Et du coup, on a essayé de mettre en place une journée d'accueil des étudiants. Et vu que, comme vous pouvez le voir dans le nom de l'association, c'est étudiants et diplômés, donc on a déjà des personnes qui sont déjà insérées, qui sont diplômées, donc qui savent un peu le secteur de le monde professionnel, qui connaissent le monde professionnel.
Oui.
Et donc, par ces retours d'expérience-là et par des témoignages des gens qui sont passés par différents parcours, et donc on fait ces journées-là pour sensibiliser les étudiants, et pendant ces journées-là on fournit des informations sur des filières, sur les secteurs en tension, sur les secteurs moins en tension, et du coup ça peut être justement selon le projet toujours professionnel ou personnel, oui, de l'étudiant, toujours il pourra avoir en toute connaissance de cause avoir certaines informations. On ne prétend pas lui donner tout,
oui,
mais il aura quand même une base et des référents. Donc, l'association est surtout là pour ça, d'orienter et même les mettre
en... Il aura toutes les cartes en main pour savoir où il va.
Exactement. Il aura au moins les éléments nécessaires pour faire un choix.
Et dernière intervention pour vous, Mahamadou Hachimou. Alors, la Banque mondiale a indiqué que seulement 2% des étudiants africains se spécialisent dans les filières agricoles, alors que ce secteur représente 60% du marché de l'emploi dans la plupart des pays. Comment expliquer que le domaine agricole n'attire pas les étudiants? Mahamadou Hachimou.
Le domaine agricole n'attire pas suffisamment les étudiants parce que, et tout simplement, il y a un sérieux problème du système que nous en disposons au sein de nos pays. Et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on doit obligatoirement sortir de cette façon de penser-là, de ce carcan, de ce cliché bureaucratique.
Oui.
Où chacun estime qu'il doit être un bureaucrate et que le domaine agricole, c'est un domaine qui est réservé au monde rural. Et quand l'on a fait des longues études, on n'est pas appelé à s'orienter vers le domaine agricole, alors même que toutes les nations qui se sont développées aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont accordé beaucoup d'importance dans le domaine agricole.
Oui.
Et là, c'est parce que l'État aussi n'a pas propulsé ce domaine-là.
Il n'y a pas, une vraie politique de développement et de promotion de ce secteur.
Il n'y a pas une vraie politique de développement et de la promotion de ce secteur. Même généralement, nos camarades, nos étudiants, nos amis étudiants avec lesquels nous sommes qui étudient l'agronomie, le plus souvent, quand ils terminent, ils se retrouvent soit dans le ministère, soit dans les ONG ou les projets. Alors même que s'il y avait des usines qui ont été fabriquées par l'État, et s'il y avait des industries qui ont été implantées, des entreprises de transformation en agroalimentaire,
oui.
Et tous ces étudiants-là peuvent être orientés de l'autre côté pour servir la nation et servir la société.
Oui.
Et non seulement ça va nous permettre de sortir du sérieux problème que nous avons de l'autosuffisance alimentaire dans nos pays africains, ça va aussi permettre aux étudiants, une fois sur le terrain, d'appliquer ce qu'ils ont appris au niveau de la fac de façon stricte pendant leur formation, durant tout le parcours de la vie. Alors même que quand tu es dans un bureau, c'est juste tu es en contact avec les papiers, tu vas gérer les papiers, c'est la paperasse tout le temps. Mais c'est parce que ce domaine n'a pas une forte attraction. C'est tout simplement parce que l'État n'a pas développé ce domaine-là. Je pense que si le domaine est assez développé, c'est un domaine qui peut employer au-delà des agronomes.
Oui, bien sûr.
Aujourd'hui, si on développe le système agricole au sein de nos pays, ça va employer les agronomes, ça peut employer les étudiants en géographie, les étudiants en sociologie, et les étudiants en géologie, parce que c'est un domaine en réalité et qui combine plusieurs aspects,
plusieurs disciplines,
de la science, de beaucoup de disciplines, pour qu'elles puissent être boostées en réalité.
Merci à mes invités, Cheikh Oumar Koulibaly, membre de l'Association des diplômés et étudiants maliens en France, et Mahamadou Hachimo, secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Niamey. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Merci à l'équipe qui s'active pour la réussite de l'émission. Guillaume à la réalisation à Beverly pour les réseaux sociaux. La semaine prochaine, on parlera de la pop culture. Comment le divertissement, les séries télé, la musique, les telenovelas influencent-ils la vie des jeunes dans les pays africains? Si vous souhaitez participer à l'émission, n'oubliez pas le numéro WhatsApp de l'émission 0033 647 740 742.